Chapitre 8. La bataille du roi. Restait la bataille du roi. Resserre-nous un peu de ce vin mosellan, Brunet. Qui donc ? L'archiprêtre ? Ah bon, celui de Verdun. Je le verrai demain, ce sera bien assez tôt. Nous sommes ici pour 3 jours, tant nous nous sommes avancés par ce temps de printemps qui continue, au point que les arbres ont des bourgeons en décembre. Oui, restait le roi Jean sur le champ de Maupertuis. Maupertuis. Tiens, je n'y avais pas songé. Les noms, on les répète, on ne s'avise plus de leur sens. Mauvaise issue, mauvais passage. On devrait se méfier de livrer combat dans un lieu ainsi appelé. D'abord, le roi avait vu fuir en désordre, avant même l'abord de l'ennemi, les bannières que commandait son frère, puis se défaire et disparaître à peine engagé les bannières de son fils. Certes, il en avait éprouvé dépit, mais sans penser que rien fût perdu pour autant. Sa seule bataille était encore plus nombreuse que tous les Anglais réunis. Un meilleur capitaine eût sans doute compris le danger et modifié aussitôt sa manœuvre. Or, le roi Jean laissa aux chevaliers d'Angleterre tout le temps de répéter à son encontre la charge qui venait de si bien leur réussir. Ils ont déboulé sur lui, lance basse, et ils ont rompu son front de bataille. Pauvre Jean II. Son père, le roi Philippe, avait été déconfié à Crécy pour avoir lancé sa chevalerie contre la piétaille, et lui se faisait étriller à Poitiers tout précisément pour la raison inverse. Que faut-il faire quand on affronte des gens sans honneur qui toujours emploient des armes autres que les vôtres ? C'est ce qu'il m'a dit ensuite quand je l'ai revu. Du moment qu'ils s'avançaient à pied, les Anglais auraient dû, s'ils avaient été de preux hommes, rester à pied d'eux-mêmes. Oh ! Il n'est pas le seul prince qui rejette la faute de ses échecs sur un adversaire qui n'a pas joué la règle du jeu choisie par lui. Il m'a dit aussi que la grande colère où ceci l'avait mis lui renforçait les membres. Il ne sentait plus le poids de son armure. Il avait rompu sa masse de fer, mais auparavant, il avait assommé plus d'un assaillant. Il aimait mieux d'ailleurs assommer que pourfendre. Mais puisqu'il ne lui restait plus que sa hache d'arme à 2 tranchants, il la brandissait, il la faisait tournoyer, il l'abattait. On eût dit un bûcheron fou dans une forêt d'acier. De plus furieux que lui sur un champ de bataille, on n'en a guère connu. Il ne sentait rien, ni fatigue, ni effroi, seulement la rage qui l'aveuglait, plus encore que le sang qui lui coulait sur la paupière gauche. Il était si sûr de gagner tout à l'heure, il avait la victoire dans la main, et tout s'est écroulé. À cause de quoi ? À cause de qui ? À cause de Clermont, à cause d'Audrehem, ces méchants maréchaux trop tôt partis, à cause de son connétable, un âne. Qu'ils crèvent tous. Là-dessus, il peut se rassurer, le bon roi. Ce vœu-là, au moins, est exaucé. Le duc d'Athènes est mort. On le retrouvera tout à l'heure contre un buisson, le corps ouvert par un coup de vouge et piétiné par une charge. Le maréchal de Clermont est mort. Il a reçu tant de flèches que son cadavre ressemble à une roue de dindon. Audrehem est prisonnier, la cuisse traversée. Rage et fureur. Tout est perdu. Mais le roi Jean ne cherche qu'à tuer. Tuer tout ce qui est devant lui. Et puis tant pis, mourir le cœur éclaté. Sa cotte d'armes bleues brodée d'hélices de France est en lambeaux. Il a vu tomber l'oriflamme que le brave Geoffroy de Charny serrait contre sa poitrine. 5 coutillés étaient sur lui. Un bidot gallois ou un goujat irlandais, armé d'un mauvais couteau de boucher, a emporté la bannière de France. Le roi appelle les siens. « À moi, Artois ! À moi, Bourbon !» Ils étaient là il n'y a qu'un moment. Eh oui. Mais à présent, le fils du comte Robert, le dénonciateur du roi de Navarre, le géant à petite cervelle, mon cousin Jean, est prisonnier. Et son frère Charles d'Artois aussi, et monseigneur de Bourbon, le père de la dauphine. « À moi, Regnault ! À moi, l'évêque ! Fais-toi entendre de Dieu !» Si Regnault Chauveau parlait à Dieu en ce moment-là, c'était face à face. Le corps de l'évêque de Chalon gisait quelque part, les yeux clos sous la mitre de fer. Personne ne répondait plus au roi qu'une voix en mue qui lui criait « Père, père, gardez-vous ! À droite, père, gardez-vous !» Le roi a eu un moment d'espoir en voyant Landas, Voudenay et Guichard reparaître dans la bataille, à cheval. Les fuyards s'étaient-ils repris ? Les bannières des princes revenaient-elles au galop pour le dégager ? Où sont mes fils ? À l'abri, sire ! Landas et Voudenay avaient chargé, seuls. Le roi saurait plus tard qu'ils étaient morts. mort d'être retourné au combat pour qu'on ne les crût pas lâches après avoir sauvé les princes de France. Un seul de ses fils reste au roi, le plus jeune, son préféré, Philippe, qui continue de lui crier « À gauche, père, gardez-vous ! Père, père, gardez-vous à droite !» et qui le gêne, disons bien, autant qu'il l'aide. Car l'épée est un peu trop lourde dans les mains de l'enfant pour être bien offensive, et il faut au roi Jean écarter parfois de sa longue hache cette lame inutile, afin de pouvoir porter des coups d'arrêt à ses assaillants. Mais au moins, il n'a pas fui le petit Philippe. Soudain, Jean II se voit entouré de 20 adversaires, à pied, si pressés qu'ils se gênent les uns les autres. Il les entend crier « C'est le roi ! C'est le roi ! Suce au roi !» Pas une cotte d'armes française dans ce cercle terrible. Sur les targes et les écus, rien que les devises anglaises ou gasconnes. « Rendez-vous ! Rendez-vous, sinon vous êtes mort !» lui crie-t-on. Mais le roi fou n'entend rien. Il continue de fendre l'air avec sa hache. Comme on l'a reconnu, on se tient à distance. Dame, on veut le prendre vivant. Et il tranche le vent à droite surtout, parce qu'à gauche, il a l'œil collé par le sang. « Père, gardez-vous !» Un coup atteint le roi à l'épaule. Un énorme chevalier alors traverse la presse, fait brèche de son corps dans le mur d'acier, joue des cubitières et parvient devant le roi haletant qui toujours mouline l'air. Non, ce n'est pas Jean d'Artois, je vous l'ai dit, il est prisonnier. D'une forte voix française, le chevalier crie « Sire, sire, rendez-vous !» Le roi Jean alors s'arrête de frapper contre rien, contemple ceux qui l'entourent, qui l'enferment et répond au chevalier « À qui me rendrai-je ? À qui ? Où est mon cousin le prince de Galles ? C'est à lui que je parlerai. Sire, il n'est pas ici, mais rendez-vous à moi et je vous mènerai de vers lui, répond le géant. Qui êtes-vous ? Je suis Denis de Morbecq, chevalier, mais depuis 5 ans au royaume d'Angleterre, puisque je ne puis demeurer au vôtre. Morbecq, condamné pour homicide et délit de guerre privée, le frère de ce Jean de Morbecq qui travaille si bien pour les Navarres, qui a négocié le traité entre Philippe d'Évreux et Édouard III. Ah, le sort faisait bien les choses et mettait des épices dans l'infortune pour la rendre plus amère. « Je me rends à vous, » dit le roi. Il jeta sa hache d'armes dans l'herbe, ôta son gantelet et le tendit au gros chevalier. Et puis, un instant immobile, l'œil clos, il laissa la défaite descendre en lui. Mais voilà qu'à son entour, le hourvari reprenait, qu'il était bousculé, tiré, pressé, secoué, étouffé. Les 20 gaillards criaient tous ensemble « Je l'ai pris ! Je l'ai pris ! C'est moi qui l'ai pris !» Plus que tous, un gascon gueulait « Il est à moi ! J'étais le premier à l'assaillir, et vous venez Morbecq quand la besogne est faite !» Et Morbecq de répondre « Que clamez-vous, trois ? Il s'est rendu à moi, pas à vous !» C'est qu'elle allait rapporter gros, et d'honneur et d'argent, la prise du roi de France. Et chacun cherchait à la gripper pour assurer son droit. Saisi au bras par Bertrand de Troyes, au col par un autre, le roi finit par être renversé dans son armure. Ils l'eussent séparé en quartiers. « Seigneur ! Seigneur ! » criait-il. « Menez-moi courtoisement, voulez-vous, et mon fils aussi, de vers le prince, mon cousin. Ne vous battez plus de ma prise. Je suis assez grand pour tous vous faire riche. » Mais il n'écoutait rien, il continuait de hurler « C'est moi qui l'ai pris, il est mien !» Et ils se battaient entre eux, ces chevaliers, gueules rogues et griffes de fer levées. Ils se battaient pour un roi comme des chiens pour un os. Passons à présent du côté du prince de Galles. Son bon capitaine, Jean Chandos, venait de le rejoindre sur un tertre qui dominait une grande partie du champ de bataille, et il s'y était arrêté. Leurs chevaux, les naseaux injectés de sang, le mort enveloppé de bave mousseuse, étaient couverts d'écume. Eux-mêmes haletaient. « Nous nous entendions l'un l'autre prendre de grandes goulées d'air », m'a raconté Chandos. La face du prince ruisselait, et son camail d'acier fixé au casque, qui enfermait le visage et les épaules, se soulevait à chaque prise d'haleine. Devant eux, ce n'était que haies éventrées, arbrisseaux cassés, vignes ravagées. Partout des montures et des hommes abattus. Ici, un cheval n'en finissait pas de mourir, battant des fers. Là, une cuirasse rampait. Ailleurs, 3 écuyers portaient au pied d'un arbre le corps d'un chevalier expirant. Partout, archers gallois et coutillers irlandais dépouillaient les cadavres. On entendait encore dans quelques coins des cliquetis de combat, Des chevaliers anglais passaient dans la plaine serrant un des derniers Français qui cherchait sa retraite. Chandos dit « Dieu merci, la journée est vôtre, monseigneur. »« Eh oui, par Dieu elle l'est, nous l'avons emportée, » lui répondit le prince. Et Chandos reprit « Il serait bon, je crois, que vous vous arrêtiez ici et fassiez mettre votre bannière sur ce haut buisson. Ainsi se rallieront vers vous vos gens qui sont fort épars, et vous-même pourrez vous rafraîchir un petit, car je vous vois fort échauffé. Il n'y a plus à poursuivre. » « Je pense ainsi, » dit le prince. Et tandis que la bannière au lion et au lys était plantée sur un buisson et que les sonneurs cornaient dans leur trompe le rappel au prince, Édouard se fit ôter son bassinet, secoua ses cheveux blonds, essuya sa moustache trempée. Quelle journée! Il faut bien reconnaître qu'il avait vraiment payé de sa personne, galopant sans relâche pour se montrer à chaque troupe, encourageant ses archers, exhortant ses chevaliers, décidant des points ou pousser des renforts. Enfin, c'est surtout Warwick et Suffolk, ses maréchaux, qui décidaient, mais il était toujours là pour leur dire « Allez, vous faites bien !» Au vrai, il n'avait pris de lui-même qu'une seule décision, mais capitale, et qui lui méritait vraiment la gloire de toute la journée. Lorsqu'il avait vu le désordre causé dans la bannière d'Orléans par le seul reflux de la charge française, il avait aussitôt remis en selle une partie de son monde pour aller produire semblable effet dans la bataille du duc de Normandie. Lui-même était entré dans la mêlée à 10 reprises. On avait eu l'impression qu'il était partout, et chacun qui ralliait venait le lui dire. « La journée est vôtre! La journée est vôtre! Ces grandes dates dont les peuples garderont mémoire! La journée est vôtre! Vous avez fait merveille !» Ces gentilshommes du corps et de la chambre se hâtèrent à lui dresser son pavillon, sur place, et à faire avancer le chariot soigneusement garé qui contenait tout le nécessaire de son repas, siège, table, couvert, vin. Il ne pouvait pas se décider à descendre de cheval, comme si la victoire n'était pas vraiment acquise. « Où est le roi de France, l'a-t-on vu ? » demandait-il à ses écuyers. Il était grisé d'action, il parcourait le tertre, prêt à quelque lutte suprême. Et soudain, il aperçut, renversé dans les bruyères, une cuirasse immobile. Le chevalier était mort, abandonné de ses écuyers, sauf d'un vieux serviteur blessé qui se cachait dans un taillis. Auprès du chevalier, son pennon, arme de France au sautoir de gueule. Le prince fit ôter le bassinet du mort. « Eh oui, Archambault, c'est bien ce que vous pensez. C'était mon neveu. C'était Robert de Durazzo. » Je n'ai pas honte de mes larmes. Certes, son honneur propre l'avait poussé à une action que l'honneur de l'Église et le mien auraient dû lui défendre. Mais je le comprends. Et puis, il fut vaillant. Il n'est pas de jour où je ne prie Dieu de lui faire pardon. Le prince commanda à ses écuyers « Mettez ce chevalier sur une targe, portez-le à Poitiers et présentez-le pour moi au cardinal de Périgord et dites-lui que je le salue. » Et c'est de la sorte, oui, que j'appris que la victoire était aux Anglais. Dire que le matin, le prince était prêt à traiter, à tout rendre de ses prises, à suspendre les armes pour 7 ans. Il m'en fit beau reproche le lendemain quand nous nous revîmes à Poitiers. Ah, il ne mâcha pas ses paroles. J'avais voulu servir les Français, je l'avais trompé sur leur force, j'avais mis tout le poids de l'Église dans la balance pour l'amener à composition. Je ne pus que lui répondre. « Beau prince, vous avez épuisé les moyens de la paix par amour de Dieu, et la volonté de Dieu s'est fait connaître. » Voilà ce que je lui dis. Mais Warwick et Suffolk étaient arrivés sur le tertre, et avec eux, Lord Cobham. « Avez-vous nouvelles du roi Jean ?» leur demanda le prince. « Non, pas de notre vue, mais nous croyons bien qu'il est mort ou pris, car il n'est point parti avec ses batailles. » Alors le prince leur dit « Je vous prie, partez et chevauchez pour m'en dire la vérité. Trouvez le roi Jean. » Les Anglais étaient épars, répandus sur près de 2 lieues rondes, chassant l'homme, poursuivant et ferraillant. À présent que la journée était gagnée, chacun traquait pour son profit. « Dame, tout ce que porte sur lui un chevalier pris, armes et joyaux, appartient à son vainqueur. Et ils étaient bellement adornés, les barons du roi Jean. Beaucoup avaient des ceintures d'or, sans parler des rançons, bien sûr, qui se discuteraient et seraient fixées selon le rang du prisonnier. Les Français sont assez vaniteux pour qu'on les laisse eux-mêmes fixer le prix auquel ils s'estiment. On pouvait bien se fier à leur gloriole. Alors, à chacun sa chance. Ceux-là qui avaient eu la bonne fortune de mettre la main sur Jean d'Artois ou le comte de Vendôme ou le comte de Tancarville étaient en droit de songer à se faire bâtir château. Ceux qui ne s'étaient saisis que d'un petit banneret ou d'un simple bachelier pourraient seulement changer le meuble de leur grand salle et offrir quelques robes à leurs dames. Et puis il y aurait les dons du prince pour les plus hauts faits et belles prouesses. Nos hommes sont à chasser la déconfiture jusque aux portes de Poitiers, vint annoncer Jean de Grailly, captal de Buch. Un homme de sa bannière qui revenait de là-bas avec quatre grosses prises, n'en pouvant plus conduire plus, lui avait appris qu'il s'y faisait grand abattis de gens, parce que les bourgeois de Poitiers avaient fermé leurs portes. Devant celle-ci, sur la chaussée, on s'était oxy horriblement. Et maintenant, les Français se rendaient d'aussi loin qu'ils apercevaient un Anglais. De très ordinaires archers avaient jusqu'à 5 et 6 prisonniers. Jamais on n'avait ouï telle méchéance. « Le roi Jean y est-il ? » demanda le prince. « Certes non, on me l'aurait dit. » Et puis, au bas du tertre, Warwick et Cobham reparurent, allant à pied, la bride de leur cheval au bras, et cherchant à mettre paix parmi une vingtaine de chevaliers et écuyers qui leur faisaient escorte. En anglais, en français, en gascon, ces gens disputaient avec des grands gestes, mimant des mouvements de combat, et devant eux, tirant ses pas, allait un homme épuisé, un petit tubant qui, de sa main nue, tenait par le gantelet un enfant en armure. Un père et un fils qui marchaient côte à côte, tous deux portant sur la poitrine des lisses de soie tailladées. « Arrière ! Que nul n'approche le roi s'il n'en est requis !» criait Warwick au disputeur. Et là seulement, Édouard de Galles, prince d'Aquitaine, duc de Cornouailles, connut, comprit, embrassa l'immensité de sa victoire. Le roi Jean, le chef du plus nombreux et plus puissant royaume d'Europe. L'homme et l'enfant marchaient vers lui très lentement. Ah, cet instant qui demeurerait toujours dans la mémoire des hommes. Le prince eut l'impression qu'il était regardé de toute la terre. Il fit un signe à ses gentilshommes pour qu'on l'aidât à descendre de cheval. Il se sentait les cuisses raides et les reins aussi. Il se tint sur la porte de son pavillon. Le soleil qui inclinait traversait le boqueteau de rayons d'or. On les aurait bien surpris, tous ces hommes, en leur disant que l'heure de vêpres était déjà passée. Édouard tendit les mains au présent que lui amenaient Warwick et Cobham, au présent de la Providence. Jean de France, même courbé par le destin adverse, est de plus grande taille que lui. Il répondit au geste de son vainqueur, et ses deux mains aussi se tendirent, l'une gantée, l'autre nue. Ils restèrent un moment ainsi, non pas s'accolant, simplement s'étreignant les mains. Et puis Édouard eut un geste qui allait toucher le cœur de tous les chevaliers. Il était fils de roi. Son prisonnier était roi couronné. Alors, toujours le tenant par les mains, il inclina profondément la tête et il esquissa une pliure du genou. Honneur à la vaillance malheureuse. Tout ce qui grandit notre vaincu, grandit notre victoire. Il y eut des gorges qui se serrèrent chez ces rudes hommes. Prenez place, sire mon cousin, dit Édouard en invitant le roi Jean à entrer dans le pavillon. Laissez-moi vous servir le vin et les épices, et pardonnez que pour le souper, je vous fasse faire bien simple chair. Nous passerons à table tout à l'heure. Car on s'affairait à dresser une grande tente sur le tertre. Les gentilshommes du prince connaissaient leur devoir, et les cuisiniers ont toujours quelques pâtés et viandes dans leur coffre. Ce qui manquait, on alla le chercher au garde-manger des moines de Maupertuis. Le prince dit encore, « Vos parents et barons auront plaisir à se joindre à vous. Je les fais appeler. Et souffrez qu'on pense cette blessure au front qui montre votre grand courage. »